La première.
Tout autre chose.
Véronique Thiberguien.
Oui, alors voilà, on a quand même longuement hésité avant de vous proposer cette émission parce qu'à la suite de la première émission que nous avions faite, consacrée aux céphalées et aux migraines, eh bien, certains avaient réagi en nous écrivant et en nous disant « Oh, votre émission m'a donné mal à la tête ». On s'est dit « On ne peut pas, nous sommes le service public, nous ne pouvons pas donner mal à la tête aux auditeurs ». Oui, mais voilà, le 12 septembre, c'est la journée européenne de la migraine. Pouvions-nous passer à côté ? Eh bien, prenez donc vos précautions, vos petits médicaments, car nous allons parler céphalées et migraines aujourd'hui. Have you ever been alone, where the wind runs, skips and moans, and a man comes in your way, telling you it's time to pray. Everybody's got illusions, everybody talks so tall, everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive, boy. Have you ever seen them cry? Everybody's got illusions, everybody talks so tall, everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive. Have you ever drunk their wine, stolen diamonds from the blind? Then a man comes in your way, telling you it's time to pray. Everybody's got illusions, everybody talks so tall, everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive, boy. The will to survive, boy. The will to survive, boy. The will to survive. Brown avec Losing the Will to Survive. Il est 10h12, vous écoutez Tout autre chose jusqu'à 11h30. Nous allons donc vous parler de migraines, de céphalées et autres maux de tête. Plus d'un Belge sur 10 souffre de migraines et les femmes, une fois de plus, sont plus souvent victimes que les hommes devant la migraine. Nous allons en parler avec le docteur Catherine Gillin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et vous aviez déjà participé à cette première émission que nous avions fait en fin de saison passée. Et nous avions eu tellement de questions et tellement de choses à dire que nous n'avions pas pu terminer cette émission puisque nous n'avions pas pu passer, discuter plutôt sur le volet des traitements de fond. On va donc en reparler avec vous et puis essayer quand même de redonner quelques définitions puisque j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui n'étaient peut-être pas tous là à ce moment-là et n'avaient peut-être pas pris tous des notes. Nous parlons donc de migraines avec vos interventions, vos questions, vos témoignages au 02 737 26 06. 02 737 26 06 ou un courriel à toutautrechose@rtbf.be. Tout autre chose écrit en un seul mot. Vous pouvez également nous envoyer un message par SMS au 30 51 50 centimes. Le message. S'il vous est par exemple arrivé de souffrir de migraines et pendant des années vous en avez recherché la cause, vous vous êtes tourné vers différents médecins et puis finalement vous avez réussi à trouver quelqu'un qui vous a écouté et qui a pu trouver l'origine ainsi que les soins et le traitement adaptés à votre situation, bien n'hésitez pas à nous en parler. Vous vous posez des questions tout simplement sur votre état, n'hésitez pas non plus. Nous ne ferons pas de consultation en direct mais nous essaierons quand même d'aborder un maximum de vos témoignages en compagnie donc de notre invitée Catherine Gilles. Alors quand on a l'habitude encore une fois de dire mot de tête, mais mot de tête ça signifie tout et rien à la fois, puisque les céphalées, il en existe de différents types, de différentes sortes. Est-ce qu'on peut en reparler un petit peu, Catherine Gilles?
Oui, donc effectivement, le mal de tête, la céphalalgie, c'est un terme tout à fait global qui désigne uniquement le symptôme de la douleur à la tête, mais l'origine peut en être très très diverse et donc il est en effet essentiel de pouvoir faire un diagnostic précis pour pouvoir aider le patient de façon tout à fait orientée. Pour rappel, je vous ai dit qu'en 88, il y avait une association d'experts internationaux qui avait édité une liste de critères qui est d'ailleurs régulièrement revisitée et qui a toute son importance parce qu'elle permet justement, avec des critères tout à fait définis pour chaque type de mal de tête, d'arriver à poser un diagnostic aussi précis que possible. Alors, la migraine parmi toutes les autres est une parmi 13 différentes possibilités. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment d'autres diagnostics à devoir rechercher. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Les céphalées primaires, ce sont celles qui sont sans cause organique reconnue, dont la migraine est la grande vedette, les algies vasculaires de la face et les céphalées de tension, plus quelques autres petites bénignes. On en avait parlé, la céphalée de la crème à la glace, par exemple.
Oui.
Et puis alors, les céphalées secondaires sont très nombreuses et évidemment très importantes à exclure. Aussi lorsque l'on voit un patient qui a un mal de tête avant de poser un diagnostic de céphalée primaire, parce que les céphalées secondaires sont d'origine très multiple. Ça peut être un problème loco-régional qui va interpeller l'ophtalmologue, l'ORL, le stomatologue, par exemple. Ça peut être une maladie métabolique, une intolérance, une anémie, un trouble hormonal. Ça peut être aussi des choses plus importantes comme des maladies intracrâniennes, la présence de tumeurs, la présence d'anomalies vasculaires. Donc il est vraiment essentiel de pouvoir quand même avoir une vision très large au départ, de poser toutes les questions, de faire éventuellement des examens complémentaires afin de déterminer le diagnostic. Et les céphalées primaires, ce sont celles qui ont des caractéristiques propres mais qui aussi n'ont pas donc de cause déterminée soit par l'imagerie, soit par d'autres investigations plus générales.
Une des choses qui m'était bien revenue à la suite de cette émission-là, c'était que finalement le Belge se prend assez peu en considération devant sa migraine, devant son mal de tête, et considère qu'il peut vivre avec, ce n'est pas grave, et néglige peut-être de consulter.
Oui, pas seulement le Belge d'ailleurs, parce que les statistiques en Europe, en tout cas, vont jusqu'à 40% des gens qui ne consultent pas quand ils ont des maux de tête. Peut-être effectivement que ça a été un symptôme trop longtemps banalisé et à la limite même la migraine, puisque vous le disiez tout à l'heure, la migraine touche plus la femme. Ça a été, je pense, longtemps considéré un peu comme une somatisation un peu hystéroïde de la femme, d'autant qu'elle a souvent des migraines aux règles et donc elle devient irritable, elle a mal de tête. Et puis, c'est classiquement la bonne excuse pour ne pas frouchouler. Hein, donc, ça a été mal compris pendant longtemps et ça a été pas considéré comme une maladie alors que c'en est une.
La fameuse migraine hormonale.
La fameuse migraine hormonale, tout à fait. Au moment des règles, on a une chute importante du taux d'estrogène et c'est une des causes possibles de la migraine. C'est pas responsable, ce sont des femmes qui génétiquement ont une propension à pouvoir en faire, mais c'est quand même une des causes possibles. Et c'est vrai que chez les femmes migraineuses, les deux tiers ont systématiquement des migraines aux règles. Et donc c'est vrai que ça a été longtemps banalisé aussi. Mmh. On dit encore beaucoup que ce n'est que psychosomatique, mais là aussi, la psychosomatisation est essentielle. Il faut l'écouter. Si le corps parle pour quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, faut pas négliger ça.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en tient quand même un petit peu plus compte, oui, et qu'on a tendance à mieux en parler aussi, même dans les cabinets. Mais on avait bien aussi déterminé lors de cette première émission la difficulté d'un diagnostic précis quant à la migraine. Et souvent, des diagnostics doivent prendre plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de véritablement déterminer de quoi il s'agit.
C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, quand on voit un patient qui vient avec une plainte de mal de tête, il faut d'abord faire une anamnèse, donc un interrogatoire très, 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 très fouillé qui prend du temps. Mm-hmm. Et bon, le temps, comme vous le savez, c'est quelque chose de devenu très précieux de nos jours. C'est vrai qu'un interrogatoire poussé peut prendre facilement une heure de consultation. Et encore, parfois, on n'a pas fini et il faut faire revenir le patient. Parce que aussi, il y a des céphalées intriquées. Il n'est pas rare que quelqu'un migraineux vrai développe des céphalées de tension conjointe, ou on doit se poser la question chez un migraineux classique dont les migraines changent de caractéristique, il est peut-être en train de développer quand même une tumeur cérébrale ou un trouble vasculaire. Mmh. Il faut aussi être attentif à l'évolution que le patient décrit. Donc ça nécessite avant toute chose un interrogatoire extrêmement méticuleux et éventuellement des examens complémentaires si on veut s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent. Mmh. Alors quand vous dites que ça peut prendre plusieurs semaines, c'est surtout pour les cas difficiles cliniquement. Oui. Où ça ne rentre pas dans justement une série de critères bien spécifiques et qu'on voit qu'il y a un mélange. Donc d'arriver à faire la part des choses pour pouvoir identifier ce qui est le plus prédominant et aussi la grosse problématique de ce qu'on appelle les céphalées auto-induites, des gens qui peut-être banalisent trop vite leur mal de tête et qui vont trop vite chercher un antalgique. Et on le sait maintenant de façon très pertinente, ça fait partie d'ailleurs des critères de la classification internationale, quand on consomme trop régulièrement un antalgique, on finit par provoquer un mal de tête parce qu'il y a une dépendance chimique.
Ah oui, donc le médicament peut provoquer le mal.
Le médicament provoque. Une fois qu'on le prend régulièrement, le corps s'habitue et dès que le taux diminue dans le sang, on redéveloppe la douleur pour en redemander. C'est vraiment une addiction. Ouais. Et donc, on arrive à ce moment-là à des gens qui ont des maux de tête quotidiens. Hein, on appelle ça la céphalée chronique quotidienne. Et ils ont mal de tête pratiquement, dans les statistiques, ça va jusque 190 jours par an. Quoi. C'est vraiment extraordinairement prégnant. Ouais. Donc là, il faut vraiment être très attentif à ça. Ouais. Et toute personne qui se rend compte qu'elle va trop vite chercher un antalgique pour des maux de tête, doit absolument réagir et se positionner et consulter.
1,5 million de jours de congés par an sont dus à la migraine. Alors, on ne sait pas non plus, malheureusement, par rapport au grand nombre de jours de congés pris pour cause de maladie, ce que ça peut représenter, mais c'est quand même déjà énorme, d'autant plus si on a affaire à des phénomènes chroniques de ce type. Et puis, Jean-Christophe avait réagi, il ne faut pas prendre un mal de tête à la légère, vous le disiez tout à l'heure. La récente alerte connue par Charlotte Gainsbourg le prouve. Quels sont les signes annonciateurs de complications et les moyens de les prévenir? Alors, pour ceux qui n'étaient pas tout à fait sur Terre et en Belgique ou en France il y a peu, c'est vrai que Charlotte Gainsbourg a eu un accident en pratiquant un sport. Il n'y a pas eu de suite réelle de l'accident, mais quelques jours après, elle a dû être hospitalisée d'urgence pour une hémorragie cérébrale. Cela dit, entre-temps, elle a souffert de migraines et de maux de tête et on n'a pas véritablement pris cela suffisamment en compte. Ce qui montre bien qu'effectivement, le mal de tête n'est pas forcément bénin.
Tout à fait. Bon, je peux pas juger, je n'étais évidemment pas sur place. Mais il est évident que quelqu'un qui a un traumatisme crânien et qui se plaint de mal de tête après, il faut tout de suite réagir, il faut tout de suite s'inquiéter. Le traumatisme crânien peut entraîner beaucoup de problèmes, que ce soit effectivement une hémorragie cérébrale, soit par le choc direct, soit en faisant rompre une anomalie préexistante. Hein, si un patient patient a un anévrisme qui n'a pas encore parlé. Cet anévrisme peut éventuellement être déchiré lors du traumatisme, mais il y a aussi ce qu'on appelle les hématomes post-traumatiques qui peuvent être soit en dehors du cerveau, au niveau de la méninge et finir par comprimer le cerveau, soit carrément dans le cerveau. C'est sûr qu'un mal de tête après un traumatisme doit systématiquement inquiéter. Maintenant, ça fait partie du syndrome post-commotionnel. Même avec, bon, la plupart du temps, heureusement, il n'y a pas l'évolution dramatique comme chez Mme Gainsbourg, mais peut-être qu'ils ont banalisé en croyant que c'était une céphalie.
Elle-même a banalisé. Peut-être. C'est possible qu'elle ne se soit pas plainte directement au médecin qui l'a sculpté.
Mais je pense que toute personne qui a de toute façon un traumatisme crânien doit consulter, parce que ce n'est jamais bénin. Et s'il développe des maux de tête, il est évident qu'il doit être observé.
On a déjà pas mal de questions qui nous sont arrivées au 02 737 26 06 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be, tout autre chose écrit en une seule fois. Et vous pouvez bien sûr nous faire part aussi de vos questions, de vos témoignages par SMS au 30 51 50 centimes. Le message: Xavier, la migraine peut-elle être génétique? Comment la diagnostiquer précocement pour permettre un traitement préventif? Son grand-père était migraineux, son père l'est également, pardon, depuis l'âge de 50 ans. Xavier ne précise malheureusement pas s'il l'est lui-même ou pas. Cela dit, il se pose quand même la question. On y répond dans quelques instants. Ce sera juste après Françoise Hardy.
Je vais
Lazardi, la sieste, il est 10h28, vous écoutez Tout Autre Chose. Jusqu'à 11h30, nous parlons de céphalées dans cette émission avec vos questions 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Message également par SMS au 3051, 50 centimes. Le message, pas mal de femmes qui nous contactent. J'ai 35 ans et depuis plus d'un an, je souffre de migraines atroces les deux premiers jours de mes règles. Est-ce l'hormone ou l'âge, se demande Marie de Bruxelles. Et souffert de terribles migraines suite à une péridurale. Je m'en suis débarrassée grâce à un traitement en acupuncture. Encore une fois, probablement aussi une question d'hormones, nous dit cette personne. Et puis une autre réaction que nous avons reçue par téléphone, c'est Julie qui nous faisait part de son témoignage. Jeune, elle souffrait de migraines menstruelles. Elle a eu une insuffisance rénale et on a dû lui enlever un rein dû au traitement qu'on lui avait donné à l'époque. Alors, on va revenir deux minutes, si vous le voulez bien, sur cette fameuse migraine hormonale. Est-ce que c'est véritablement l'hormone qui en est la cause? Et est-ce qu'on peut traiter et aider ces femmes qui souffrent de céphalées au moment de leurs règles? Oui. Est-ce que ça peut apparaître comme ça? Parce qu'à 35 ans, elle n'en souffrait pas avant et ça fait un an qu'elle en souffre à ce moment-là.
Oui, les variations hormonales font partie des facteurs favorisants. Donc en fait, chaque migraineux est sensible à certains facteurs favorisants qui lui sont propres. On compte quand même au moins 4 à 5 facteurs favorisants par patient migraineux, mais qui ne vont pas du tout être les mêmes pour l'un comme pour l'autre. Par contre, chez la femme, effectivement, les variations hormonales sont quand même un facteur favorisant très fréquent. C'est la raison pour laquelle il y a une inversion d'ailleurs de la proportion après la puberté, puisque avant la puberté, c'est plutôt les garçons qui en souffrent, et après la puberté, ce sont les femmes. Donc 4 femmes pour un homme quand même, différence est nette. Alors oui, donc ça fait partie des facteurs favorisants. Une fois de plus, toutes les femmes n'ont pas spécialement, mais on pense que c'est dû à la chute donc, de l'œstrogène au moment des règles. Sans doute que les progestatifs jouent un petit rôle aussi. Alors, il y a une variation du taux hormonal avec l'âge, ça c'est connu. Donc c'est possible que ça puisse se déclarer plus tard, comme il y a aussi des jeunes filles qui en ont beaucoup à l'adolescence et puis qui n'en développent plus après. Oui. Il y a des variations durant la grossesse qui sont connues dans un sens comme dans l'autre. Il y a des femmes aggravées, des femmes améliorées. Donc manifestement, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Au niveau du traitement, oui, dans des cas pareils, ce que l'on fait, c'est de donner pendant la période de règles, la semaine de suspension de pilules si les femmes sont sous contraception, c'est de donner un ajout d'estrogène pur, donc pour garder un taux d'estrogène plus important. Ça ne va pas spécialement diminuer, enfin, stopper toute crise, mais en général, ça diminue l'intensité, la fréquence des crises résiduelles. C'est actif quand même dans, disons, 8 femmes sur 10. On peut aussi donner des anti-inflammatoires en préventif les quelques jours avant les règles. Ça peut très bien donner aussi, puisqu'il y a tout un phénomène inflammatoire au niveau des artères méningées qui rentrent en compte dans la migraine. Donc voilà, maintenant, une fois de plus, il faut peut-être que cette femme fasse un bilan hormonal aussi. Elle est peut-être en variation importante, malgré son âge assez jeune au niveau hormones.
La céphalée peut être un effet secondaire d'un médicament, de la péridurale par exemple, cette personne qui nous parlait de la péridurale?
Oui, c'est pas un médicament à la péridurale, donc c'est un acte technique que l'on fait au niveau du canal rachidien, et donc comme on fait varier la pression du liquide céphalo-rachidien, qui est ce liquide qui baigne le système nerveux central, ça provoque une céphalée. C'est comme durant les ponctions lombaires, c'est pas du tout une migraine, c'est une céphalée due à la modification de pression du liquide céphalo-rachidien. Il est assez classique de développer des migraines, des maux de tête, ça y est, moi aussi je m'en mêle, des maux de tête après ça, qui répondent curieusement d'ailleurs très très bien à de la caféine. Et à du sucre. Voilà, mais c'est purement dû à l'acte de prélèvement de liquide céphalo-rachidien.
À chaque fois que l'une de nous utilisera migraine, oui, à mauvais escient, on mettra 1 euro dans le cochon.
Voilà.
À mon avis, je mettrai plus que vous, hein, quand même. Dans les questions qui nous étaient arrivées, il y avait également celle de Xavier qui voulait savoir s'il y avait un terrain génétique. Il est connu aujourd'hui que dans des familles, on peut effectivement avoir plusieurs patients souffrant de céphalées.
Il y a un terrain génétique évident. La migraine est une maladie génétique qui a une transmission autosomale dominante, donc un risque sur deux pour la descendance. Ça, c'est C'est très clair. Et effectivement, s'il a son grand-père et son père qui sont migraineux, il a un risque sur deux donc de le développer éventuellement. Il n'y a par contre pas d'examen préventif de pouvoir le déterminer. Si un jour il développe une céphalée, il faut qu'il consulte pour savoir s'il s'agit d'une migraine ou non. Et alors je reviens aussi sur les critères de définition de la migraine. Donc normalement, la classification internationale demande que le patient fasse 5 accès répondant aux critères typiques pour être rentrer dans la catégorie de migraineux.
5 accès à intervalles réguliers?
Non, peu importe. Parce qu'on considère effectivement que chaque personne peut faire une migraine dans sa vie, une ou deux ou trois. Nous sommes tous potentiellement, si vous voulez, des migraineux possibles. Mais on rentre dans la maladie migraineuse lorsque l'on fait 5 accès de migraine vraie.
On va recevoir par téléphone une auditrice. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien?
Oui, ça va.
Parfait,
oui.
Nous aussi. Véronique, vous nous appelez de Jeudogne. Vous aussi, vous avez souffert de maux de tête, de céphalées pendant longtemps.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que ça a commencé, en fait?
Ben voilà, depuis l'adolescence, j'ai souffert de migraines, mais surtout au moment des règles. Et puis, au moment des débuts de grossesse aussi, j'ai 4 enfants. Mais ça restait gérable, ça restait occasionnel. Et puis, un petit peu avant la quarantaine, maintenant j'ai 49 ans, j'ai eu des migraines, mais très très violentes, et des névralgies faciales. Et c'est vrai que là, c'est devenu ingérable parce que ça devenait vraiment presque journalier. Et je disais aussi que c'était très difficile de décider du moment où on prenait un antidouleur, parce que pour faire partir cette crise, il faut prendre l'antidouleur assez tôt. Et donc, on a tendance à le prendre assez tôt pour pouvoir en venir à bout et que ça ne dure pas 3 jours. Et alors, je voulais aussi dire qu'en fait, il ne faut pas se décourager. Moi, il m'a fallu 10 ans pour trouver un traitement qui marche. Le traitement est assez lourd, mais c'est à force de passer des examens, j'ai fait des tests de sommeil, j'ai fait une résonance magnétique, qu'on se rend compte des origines du mal de tête, de la migraine, de la névralgie, et qu'on arrive à trouver un traitement qui soulage. J'ai un traitement de fond qui me permet d'avoir moins de crise, et j'ai un traitement à prendre en temps de crise qui agit très bien dans les 2 heures.
Au fond, vos maux de tête, vos céphalées ont changé un peu de nature, parce que ce qui était supportable au début est devenu insupportable au bout d'un moment.
C'est ça. En fait, on sait le supporter quand c'est pas trop souvent. Mais quand ça devient 3 crises par semaine ou 4 crises par semaine, là, ça devient beaucoup moins gérable. Et alors, c'est aussi le regard des autres qui souvent jugent la personne et vous prennent pour une hystérique. Ça, c'est très, très dur. Surtout que chez moi, en fait, une crise est déclenchée automatiquement par la fumée de cigarette. Et donc, je fouillais tous les lieux publics. Et je retourne seulement au restaurant depuis qu'on peut ne plus fumer dans les restaurants. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte, ils s'imaginent que c'est un non-respect de la différence, un non-respect des fumeurs, une critique aisée. Et en fait, c'est un mal, mais qui est très réel et qui est très incompris, parce que ça ne se voit pas.
Quand vous en avez parlé, par contre, à votre médecin, est-ce que lui vous a compris? Est-ce qu'il vous a orienté tout de suite? Parce que vous dites que vous avez fait une batterie d'examens.
Tout de suite, on m'a écouté. Donc, aussi bien mon médecin traitant que mon neurologue, ils ont tout de suite compris. Et c'est ça qui est très réconfortant, c'est qu'au moins, vous ne vous sentez pas jugé à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'ai essayé un tas de nouveaux traitements. Les triptans, par exemple, chez moi, n'agissait pas parce que j'avais tendance à faire de l'hypertension. Bon, c'est peut-être ça qui a augmenté l'intensité des migraines. Et donc, je ne pouvais pas les prendre, mais j'en ai essayé plusieurs. Et il faut essayer un tas de médicaments avant de trouver celui qui vous convient réellement. Et puis, moi, j'associais aussi migraines, névralgie, céphalées de tension. Donc, c'était très, très difficile de donner un traitement type, en fait.
Aujourd'hui, vous êtes devenue une spécialiste.
Ah oui, là, je suis une spécialiste de migraines. J'ai d'ailleurs adhéré à la Ligue anti-migraineux. Et c'est vrai que là, maintenant, je connais tous les traitements. Et c'est vrai que j'avais essayé de recommencer à travailler comme infirmière. Et j'ai dû arrêter parce que certains des traitements de crise endorment et diminuent les réflexes. Et j'avais très peur de commettre des erreurs, en fait, au travail. Ce qui a été très bien compris. C'est vrai que j'ai jamais manqué de jours de travail pour les migraines parce que je prenais tout ce qu'il fallait, mais j'avais moins de réflexes, donc c'était dangereux.
Et aujourd'hui, comment ça se passe?
Ben aujourd'hui, ça se passe très bien. J'ai toujours ma panoplie de traitements de fond. Et alors, sur moi, j'ai toujours mes traitements en cas de crise. Et c'est vrai que je les prends en général assez vite si j'ai une crise, parce que j'ai trop peur de ne plus arriver au bout de la crise et que ça dure 3 jours. Mais seulement, après 2 heures, ça passe et je ne dois plus prendre autant de médicaments sur la journée parce que la crise revient et tout ça. J'ai vraiment maintenant un traitement à prendre qui agit après 2 heures et qui me permet d'être tranquille tout le restant de la journée et le lendemain, quoi. Donc,
Bien, merci beaucoup Véronique pour votre témoignage et surtout pour ce message d'espoir
aussi.
Oui, il
ne faut surtout pas abandonner, il faut tout essayer. J'ai fait l'hypnose qui a très très bien donné aussi. Il faut associer souvent plusieurs traitements et
ne pas se décourager.
Voilà.
Merci beaucoup Véronique pour votre témoignage. On va revenir justement, puisque vous parliez de traitement de fond avec le docteur Catherine Gillin, sur les traitements de fond. Ce sera dans quelques instants avec d'autres témoignages au 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be.
Trop de bagages? No stress. Avec Biflex de Brussels Airlines, emportez jusqu'à 12 kg de bagages à main et 30 kg de bagages enregistrés sans supplément. Biflex, la meilleure classe économique en Europe. La première? Restons curieux.
Tout autre chose sur la première.
Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant la surprendre. Elle parle de se pendre, s'il faut attendre. Clara veut l'été, Clara. De mars à février, Clara. Pour que les grillons cessent pas de chanter et que ses gambettes soient bronzées.
veut la lune, Alain Chamfort. Vous écoutez La Première et c'est tant mieux. Nous sommes en train de vous parler et de répondre à vos questions concernant les céphalées au 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Vous pouvez également nous envoyer un message par SMS au 30 51 50 centimes. Le message, le docteur Catherine Gillin est avec nous. Vous vouliez réagir au témoignage de Véronique et vous m'avez dit une chose surprenante. Sa profession ne vous étonne pas.
Tout à fait. Donc je trouve que son témoignage effectivement est très intéressant parce qu'il prouve bien qu'effectivement il faut être très 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 méticuleux et ne pas abandonner comme elle a dit. Alors statistiquement ce sont les institutrices et les infirmières qui en souffrent le plus.
Ça c'est fou.
Donc elle est vraiment tout à fait dedans. Et statistiquement aussi le pic vraiment de prévalence est entre 30 et 39 ans. Il y a seulement 20% des gens qui commencent à la puberté, mais le plus important c'est à cet âge-là. Donc, et son histoire est tout à fait intéressante puisque, comme elle l'a très bien dit, elle intrigue finalement trois choses différentes et plus des problèmes d'état de santé général si elle a l'hypertension, ce qui contre-indique certains médicaments. Donc, on est vraiment là dans un cas de figure où manifestement le corps médical a dû tâtonner et chercher. D'où l'importance de ce qu'on disait. Il est indispensable de déterminer le profil personnel du patient. Ça, c'est vraiment indispensable. Ce qui veut dire, est-ce que c'est un migraineux vrai, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a comme autre maladie éventuelle et comment va-t-il réagir à telle et telle proposition de traitement. Et il ne faut pas hésiter effectivement à dire aux patients qu'on va essayer, qu'on va entre guillemets tâtonner, ils n'aiment pas beaucoup ça, mais enfin c'est vrai, et que si un traitement ne fonctionne pas, on peut être amené à en chercher un autre ou parfois même à faire des associations. Il y a des gens qui ont deux ou trois traitements de fond associés lorsqu'ils sont très très résistants. Il y a quand même 30% des gens qui ont au moins une migraine par mois et 10% des gens qui en souffrent de plusieurs par semaine. Avec les deux tiers qui sont invalidés et qui ont vraiment des difficultés à continuer à vaquer à leurs occupations, voire, comme vous le disiez tout à l'heure, à devoir arrêter de travailler. Donc c'est vrai qu'un traitement spécifique est vraiment essentiel. Mais il ne faut jamais oublier que c'est un profil personnel. Et c'est ça qu'il faut arriver à identifier.
Alors, les migraines de Véronique ont changé de nature, hein, c'est ce qu'on disait avec l'âge. Est-ce que si elle avait consulté plus tôt, on aurait pu déterminer plus tôt la batterie de traitement à mettre en place pour l'aider, ou est-ce qu'il a véritablement fallu qu'elle aille au bout de cet enchaînement et de ce changement de nature?
Oui, a priori, non, on n'aurait pas pu l'aider préventivement. Je pense qu'ils ont suivi le cheminement de son évolution clinique et qu'ils ont cherché effectivement tout azimut. J'ai entendu qu'elle avait fait une analyse de sommeil. Ça aussi, c'est vraiment très important parce que la pathologie du sommeil, qui est maintenant en plein essor de connaissances, peut effectivement, de façon tout à fait sournoise, donner des symptômes diurnes qui sont des céphalées, des baisses de vigilance, de la distraction. Et on trouve que le sommeil n'est pas compétent, qu'il y a des hypoxémies, il y a donc une mauvaise oxygénation durant la nuit, etc. etc. Donc c'est vrai que ça fait partie maintenant des choses qu'on recherche aussi, tout à fait.
Alors on va parler des traitements de fond dont elle a parlé, puisque c'était un des éléments qu'on n'avait pas pu aborder la première fois. D'abord, à qui s'adresse ce type de traitement de fond? Parce que la plupart du temps, on l'a dit, on prend un antidouleur. Dans les meilleurs cas, ça passe, tout va bien. Et puis, dans des cas plus compliqués, il faut faire autre chose.
Voilà. Donc, en fait, si le patient continue à présenter des crises qui sont trop fréquentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trop fréquente? Ça reste un petit peu subjectif. Ça va dépendre aussi de son métier, de ses activités, de ce qu'il exige, entre guillemets, comme performance. La littérature parle de deux crises par mois. D'autres, enfin ça va entre deux crises par mois et une crise par semaine, donc quatre crises par mois. Et puis aussi, si les gens ne répondent pas bien au traitement, hein, quelqu'un peut tout à fait tolérer d'avoir quatre crises par mois si, une fois qu'il a pris son traitement spécifique, ça part en une demi-heure, une heure, il n'aura pas envie de prendre un médicament au quotidien, ce qu'on peut comprendre à partir du moment où vous prenez un traitement de fond. En fait, le traitement de fond, c'est un médicament qu'on doit prendre de façon quotidienne et qui petit à petit va entraîner des modifications chimiques et d'échanges électriques au niveau du cerveau qui vont diminuer, si vous voulez, cette sensibilité à faire des crises migraineuses. La première chose à dire à votre patient, c'est que ça ne va jamais tout arrêter. On ne peut pas promettre. On estime qu'un traitement de fond est efficace quand il diminue de 50%, pas plus. Là, on le considère comme efficace. Maintenant, une fois de plus, il y a des extrêmes, il y a des gens qui sont vraiment miraculés avec leur traitement de fond. Donc, c'est important, c'est un médicament à prendre tous les jours d'office qui ne supprime pas forcément les crises. Par contre, ce que l'on voit, c'est que les crises qui surviennent malgré tout sont des crises moins invalidantes et répondant plus facilement aux antalgiques. Donc, il y a déjà cet avantage-là pour celles qui persistent. Un traitement de fond doit être pris au moins pendant 2-3 mois avant de pouvoir juger s'il est efficace ou pas. S'il ne l'est pas, il faut essayer un autre.
Il faut être patient.
Aussi, difficulté, patience. Oui. S'il est efficace, on estime que le patient doit le garder un grand minimum de 6 mois, voire un an, souvent 2 ans. Parce que si on l'arrête trop tôt, il y a un risque de recrudescence et de façon assez particulière, quand on le redonne, il agit moins bien. Donc c'est comme si on devait vraiment déshabituer, entre guillemets, le cerveau à faire des migraines. Donc il faut pouvoir aussi le garder le temps continu. Alors quel choix de traitement de fond on va faire? On a en gros deux grandes classes, qu'on appelle les bêta-bloquants, qui sont normalement des médicaments que l'on donne dans l'hypertension artérielle, mais dont on a trouvé cet effet qui est un effet parallèle. La migraine n'est pas liée à l'hypertension artérielle. Et on a des antiépileptiques parce qu'ils agissent justement sur les échanges chimiques et électriques des cellules nerveuses. Il y a d'autres traitements de fond plus anciens mais qu'on n'utilise plus à cause de leurs effets secondaires, commercialisés sous le nom de sandomigran ou des érils ou sibélium, parce que d'abord les études ont été peut-être moins sérieuses à l'époque et puis les effets secondaires sont trop importants. En général, on reste dans les grandes classes des bêta-bloquants et des antiépileptiques.
Est-ce qu'il existe d'autres, parce que vous parliez des bêta-bloquants dans un premier temps, quelle est la deuxième branche possible?
Les antiépileptiques.
Les antiépileptiques. Elle a parlé de triptan, Véronique, c'est quoi le triptan?
Le triptan, ça c'est un traitement de la crise, c'est pas un traitement de fond. Donc c'est un traitement qui est tout à fait spécifique de la crise migraineuse, donc il ne peut pas du tout agir sur les autres types de céphalées, parce qu'il agit sur la modification qui se passe durant la crise de migraine. Donc la crise migraineuse, on n'a pas encore identifié quel est vraiment le processus primaire qui va l'enclencher, mais on a une théorie qui s'appelle la théorie trigémino-vasculaire, qui fait intervenir en gros une... ce qu'on appelle l'inflammation méningée, donc une modification, une vasoconstriction des artères, une vasodilatation pardon, des artères méningées qui va libérer des substances inflammatoires. Il y a à partir de là une sensibilisation du noyau du trijumeau, du nerf trijumeau, donc le nerf sensitif du visage, mais qui aussi innerve toutes les méninges et qui a donc cette particularité d'être tout à fait mis en jeu et de transmettre la crise douloureuse que le patient ressent au niveau du visage et à la moitié antérieure du crâne. Et puis à partir de ce ganglion, un relais vers les centres du cerveau qui vont justement traduire la douleur, les centres de la douleur, et alors les centres qu'on appelle neurovégétatifs, et donc le patient va avoir des nausées, des vomissements, la sueur, la pâleur, être syncopal, etc., donc toute cette triade. Il y a dans ce processus-là une modification d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, dont le nom scientifique est la 5-hydroxytryptamine, d'où le nom de triptan. Et donc le triptan va permettre d'essayer de réguler autant que possible la modification qui est entraînée par le processus migraineux. Et c'est vraiment un anti-migraineux. Et aussi ça agit dans les algies vasculaires de la face. Ça permet parfois un petit peu de faire un diagnostic différentiel aussi avec d'autres quand on hésite.
Ces traitements, vous l'avez dit, il ne faut pas les arrêter trop tôt. Ça veut dire qu'on pourrait les prendre sur une très longue période de vie ou...
Vous revenez au traitement de fond.
Oui,
là,
au traitement de fond.
Alors oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont des migraineux sévères et qui sont amenés à les garder sur des années. Maintenant, c'est vrai que ce sont par ailleurs des traitements qui sont pris de façon chronique. Si vous prenez un bêta-bloquant pour une hypertension artérielle, classiquement, bah, vous le gardez jusqu'à la fin de vos jours aussi. Si vous prenez un antiépileptique parce que vous avez une pathologie épileptique qui le nécessite, vous le prenez à vie aussi. Donc ce sont heureusement des médicaments avec lesquels un très grand recul. On en connaît les effets secondaires, donc on peut y être attentif et on sait qu'à long terme, ça n'entraîne pas de soucis majeurs. Bien sûr, il y a des surveillances, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a des surveillances à appliquer, ça c'est évident. Mais oui, autant il y a des patients qui peuvent se permettre des arrêts après 2 ans, alors on diminue très très progressivement et on voit ce qui se passe, autant il y en a qui les gardent. Et une fois de plus, ça va dépendre du mode de vie.
On sentait, hein, que Véronique, elle avait du mal peut-être à penser à laisser ses médicaments parce qu'elle avait du mal à se dire qu'elle allait devoir revivre ou repasser par la douleur par laquelle elle était passée.
Absolument, ça c'est une raison importante. Je pense que les gens ont le droit de décider de rester dans un confort de vie. Et quand je dis confort, ça n'a absolument aucun aspect, entre guillemets, de luxe. Hein. C'est,
non, il faut avoir vécu l'inconfort.
Tout à fait. Et puis parce que il faut être actif socialement, au niveau de sa famille comme au niveau la société, et donc on peut tout à fait comprendre, et si elle tolère bien son traitement de fond, si elle n'en a pas d'effet secondaire, à partir du moment où c'était manifestement une migraineuse sévère avec d'autres types de douleurs, ça vaut la peine de le maintenir, oui. Mmh.
On va revenir sur tous les témoignages qui nous sont arrivés, reprendre peut-être quelques-uns de ces témoignages déjà maintenant, et puis nous nous retrouverons après les informations de 11h. Le premier témoignage, y a-t-il un lien entre maux de tête, céphalie ou migraine et chocolat?
Il y a un lien évident, mais heureusement pas pour tout le monde. Comme je vous le disais hors micro, donc moi je suis une migraineuse et heureusement pas au chocolat. Donc le chocolat fait partie des facteurs favorisants. Malheureusement, pratiquement un migraineux sur deux, malheureusement pour lui, y est très sensible. Comme peut l'être l'alcool, surtout le vin blanc, le stress, la fatigue, le décalage horaire, les gens qui sont privés de sommeil, la chaleur, la lumière vive, les variations barométriques. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Et là aussi, ça va intervenir au mode de vie. Par exemple, je pense à un patient qui est un homme d'affaires, qui n'arrête pas de voyager, qui donc a des décalages horaires permanents. Mmh. Et à chaque décalage horaire, il a une migraine. Donc, c'est quelque chose que vous et moi, qui ne voyageons pas tout le temps, n'aurions pas.
Pas de chocolat, donc.
Ça, c'est terrible.
Oh, pas de chocolat.
Terrible.
Pas de chocolat. Autre question que nous avions un peu dans le même ordre d'idées. Une personne qui se demandait si on pouvait avoir mal à la tête à cause d'une déshydratation.
C'est un mal de tête, oui. Une migraine vraie. Enfin bon, si on est migraineux au départ et qu'on est vraiment fort déshydraté, ce qui veut dire aussi classiquement alors conditions de chaleur, etc. Mmh. Oui, le mal de tête peut virer à ce moment-là en migraine. Oui. Mmh. Tout trouble métabolique peut favoriser des maux de tête, toute perturbation. Et alors, ce qui est aussi très très important, c'est de faire attention à l'insolation. L'insolation...
Notice d'été.
Oui, mais il y a des chanceux qui voyagent.
Hein. Ah oui,
voilà. Donc, l'insolation, vraiment, là, ça, d'ailleurs, c'est un mal de tête extraordinairement invalidant et qui peut être dangereux parce qu'il peut être fatal. Ce qui se passe durant l'insolation, c'est qu'on crée un œdème au niveau du cerveau. Donc, comme quand vous êtes, si je peux comparer ça, si vous êtes piqué par un insecte et vous avez donc un endroit de la peau qui gonfle très fort, c'est ça un œdème. L'insolation, c'est ça qui se passe dans le cerveau. C'est pas très beau à voir en autopsie. Donc, c'est vraiment les cellules qui se gorgent d'eau et on attrape une hypertension intracrânienne et on peut effectivement... Donc, soyez tous très, très prudents. Ne pas rester la tête exposée au soleil.
Ça devient gore, cette émission.
Voilà, tout à fait.
Catherine Gillin, vous restez avec nous. On se retrouve juste après les informations de 11h pour répondre aux questions de nos auditeurs. Beaucoup d'entre nous parlent de migraine ophtalmique. On pourra peut-être en reparler après les informations. Et puis, beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ont un peu essayé différentes disciplines pour leur venir en aide. Et c'est vrai que soigner la migraine, les céphalées aujourd'hui, c'est pluridisciplinaire. On y reviendra juste après les informations. Merci d'être à l'écoute de la première. Restez bien avec nous. On est là jusqu'à 11h30. À tout de suite.